Ce qui prime aujourd'hui dans la société, c'est l'argent. Donc, il faut passer du paradigme qui met l'argent et le profit au centre du destin collectif vers l'humanité et la nature au centre.
Bonjour, vous écoutez l'émission Le Domaine du Possible sur Radio Grand Ciel. Alors, quelle est la place de la poésie dans notre société? C'est de cela dont nous avons parlé, entre autres, lorsque Cyril Dion est venu présenter son recueil de poésie intitulé « Assis sur le fil » à la librairie L'Esperluette de Chartres. Cette rencontre, proposée par Olivier Lostis, le responsable de la librairie, nous a permis de savourer une poésie dense, fougueuse et incarnée par un auteur sensible et créatif. Entre deux vers, à pieds différents, j'entends poétiquement, nous avons pu discuter de manière informelle et naturelle sur l'acte d'écrire et sur le rôle de la poésie de nos jours. Vous entendrez la voix d'Olivier Lostis, puis de deux colibris, Angélique et Nelly, cachés dans la salle et qui se sont prêtés au jeu de l'interview. Mais tout de suite, la voix et la poésie de Cyril Dion. Bring her home, and it's just me like a wolf to bring her home.
Corde intérieure. Derrière les bruits mécanisés, existe sans doute l'écoulement d'une eau plus réelle, le chant d'un être chaud. En se relâchant, mon corps sécherait, s'ouvrirait en deux, libérant ses ismes.
Comment ça t'est venu de vouloir écrire de la poésie?
Non, en fait, j'écris de la poésie depuis que j'ai 17 ans, je pense, donc ça fait 19 ans. Et je pense que c'est venu d'une forme d'écartèlement, je pense. D'une forme de sentiment d'être partagé entre deux réalités, une réalité sensible extrêmement intense. Donc une perception très forte de tout ce qui m'entoure, une vie intérieure très riche, et à la fois l'impression de ne pas être capable de le vivre dans la vie de tous les jours, de façon harmonieuse. Et donc je prends toujours cet exemple, mais ça me faisait beaucoup ça quand je faisais des petits boulots alimentaires, quand j'étais étudiant et tout ça. Et ça m'arrivait souvent le matin, au réveil, d'être dans une espèce très grande disponibilité, on vient de se réveiller, on est encore vierge de la journée, vierge de toute sensation, de toute conversation. Donc moi, c'est un moment où je suis d'une très très grande sensibilité aux choses, et d'avoir l'impression de ressentir les choses dans une dimension immense et avec beaucoup beaucoup d'intensité, et d'écrire et d'essayer de traduire ça, et d'être ému par des choses aussi simples que regarder des gens ou de voir le soleil qui se lève, ou et après d'arriver au boulot et d'être à la machine à café ou à la photocopieuse. Et moi, en fait, ce grand écart-là, où tout d'un coup, il faut que notre sensibilité se cantonne à des structures extrêmement rigides, extrêmement codifiées, où il faut faire les choses comme ci et comme ça, et aller travailler pour gagner de l'argent, pour avoir un salaire, pour pouvoir payer, et faire un truc même si on l'aime pas, et exécuter des tâches, etc. Ça a toujours été une très grande souffrance pour moi. Donc c'est une des raisons pour lesquelles, très tôt, je me suis rendu compte que je ne pourrais pas faire quelque chose qui n'a pas du sens profondément pour moi dans ma vie, dans lequel j'ai pas de la passion, parce que ça me rendait vraiment physiquement malade. Corde extérieure. Les champs à tue-tête. Légion superbe, la tête nue, les yeux frappés de lumière, et les cœurs encore que l'on tiendrait à main pleine.
les champs ici, les champs à foison, mes jambes lancées comme on dévore l'horizon, mon visage baigné des cajoleries de l'aurore. Les champs, glorieux champs, les champs encore, leurs tambours qui crissent et se brisent, à mesure que mes jambes se lancent à travers champs.
Ça veut dire trouver les mots justes et donc arriver à trouver les mots qui vont pouvoir définir un sentiment ou une sensation. Donc je me demandais comment se faisait ce travail pour toi. Est-ce que c'était difficile ou au contraire c'était plutôt fluide?
Ça dépend de ce que j'écris en fait, mais la poésie c'est plutôt des moments de jaillissement, oui. Donc c'est des choses qui viennent souvent dans des moments de disponibilité particulière ou dans des moments justement de tension et de sentiment d'écartèlement plus fort que d'autres. Et à ce moment-là, ça vient comme ça. Après, je retravaille, mais c'est quelque chose de presque un peu d'automatique. Je ne sais pas ce que j'écris la plupart du temps. Je ne sais pas ce que je vais écrire. Il y a plein d'auteurs qui disent qu'ils écrivent pour savoir ce qu'ils pensent. Et je pense que c'est vrai. Enfin, en tout cas, pour moi, ça marche aussi. Et la plupart du temps, je comprends ce que je pense de quelque chose ou ce que je ressens en écrivant ou en relisant ou grâce à des gens qui me racontent des choses par rapport à ce que j'ai écrit que parfois je n'avais pas vu non plus. Photocopie supérieure hiérarchie. Qu'il est assommant d'être libre et vacant, lavé de nos terres et de nos brillances. Qu'il est incertain d'être roi quand l'homme du vacarme et des plaines doit être libéré. Machine à café et couloir gris. De nos petits univers et de leurs lois anodines, nous sommes les garants. Du jet de pierre comme de l'étonnante douceur. Pourtant, si peu de ces brins nous seront familiers lorsque nous disparaîtrons de l'horizon des buts.
Maintenant que c'est publié, c'est devenu public, est-ce que quand tu relis, tu as des envies de changer des mots ou est-ce que tu as envie d'y revenir ou est-ce que tu as ce sentiment que voilà, ça ne t'appartient plus?
Ça me le fait un peu moins maintenant, mais le premier truc que ça m'a fait, en fait, ça faisait rigoler ma femme parce que... Enfin, ça la faisait pas rigoler, ça la consternait, je crois. Quand j'ai reçu le livre, j'étais comme ça sur un fauteuil chez moi et je le regardais, elle me disait « T'es content ?» Je disais « Je sais pas. » Mais quand même, t'es content. Ça fait 15 ans que tu veux publier ta poésie. Je dis, mais je peux plus corriger. Et elle était consternée. Elle me disait... Et alors? Mais parce que c'est vrai, moi, j'ai relu ça, peut-être, je sais pas, ça fait 5 ou 6 ans que j'arrête. Je le relis tout le temps et je reviens dessus. Et c'est un truc que je pourrais corriger à l'infini, quoi. Donc le premier truc, quand je l'ai ouvert et que je l'ai lu, j'étais là, oh, mais ça, mais non, mais ça va pas du tout. J'aurais jamais dû dire ça. Et, oh, mais j'aurais dû changer ça. Et puis, à force de le lire en public, justement, ça me le fait de moins en moins. C'est-à-dire qu'il y a sans doute une partie de moi qui se rend compte que justement, ça m'appartient plus. Et c'est un truc que j'ai eu besoin de faire, c'est que pour arriver à le lire en public, la première fois que je l'ai lu en public, j'ai failli vomir tellement j'avais mal à la tête. Tellement c'était violent pour moi de lire un truc qui est quand même intime et tout ça. Et il a vraiment fallu que je passe par une phase où je me disais que c'était... Il fallait que je le lise comme si c'était pas moi qui l'avais écrit, que sinon j'y arriverais pas. Lorsque je suis à nouveau tremblant et que les larmes affleurent sans cesse comme pour signifier l'émerveillement. Lorsque ma peau délimite à gros traits un territoire ignoré que de longues minutes ne suffisent à parcourir. Lorsque l'espace que je contiens est aussi vaste que l'espace qui me contient. Lorsque la solitude n'est plus un fardeau mais une grâce à partager sans mesure.
J'ai lu quelques extraits de ton livre avant de venir aujourd'hui. J'ai aimé dans l'ensemble ce que j'ai lu, mais je ne l'aurais pas acheté. Et depuis que tu le lis, j'ai envie de l'acheter.
Ah, chouette.
Non, mais indépendamment de l'aspect financier.
Non, je plaisante.
Je sais que tu plaisantes. Mais ce que je veux dire, c'est que pour le coup, c'est vraiment vivant. Ouais, c'est ça. Oui. C'est ça. C'est la vie qui était déjà présente à la lecture, mais le fait que tu le dises et que, même si c'est un autre toi, en tout cas, c'est un toi qui le vit.
Oui, oui. Mais c'est vraiment, je pense que c'est fait pour être lu et pour être entendu, la poésie, vraiment. Ouais. Ouais. C'est très musical et c'est super. Enfin, il y a plein de pays où c'est encore très vivant. Hein. Ouais. On en parlait tout à l'heure. Ça marche avec les chansons aussi. Moi, je sais que j'aime beaucoup Brassens. C'est quand on rencontre quelqu'un qui connaît les mêmes chansons, comme quelqu'un qui connaîtrait les mêmes poèmes. Moi, j'ai vécu ça en Palestine aussi, où j'ai rencontré Mahmoud Darwish, qui était une espèce d'icône, une voix pour la Palestine et tout ça. Et pour eux, c'était vraiment à la fois quelqu'un qui portait leur voix et en même temps quelqu'un qui créait de l'union entre eux.
C'est l'union, je crois. Ouais.
Connaître les mêmes poèmes qui traduisent quelque chose de fort pour nous deux, bah, tout d'un coup, ça crée un peuple, ça crée une culture, ça crée... Ouais, et c'est super. C'est à ça que ça sert aussi, je pense. C'est une forme de résistance, justement, au fait que beaucoup de choses deviennent virtuelles, que les gens deviennent assez séparés, justement, parce que derrière leur poste de télé, et qu'il y a à nouveau ce besoin, cette espèce de mouvement de balancier où on a besoin d'être ensemble. Sous les arbres. Mots qui se répètent en boule à l'intérieur de ma tête. Mots que je redouterais de dire à haute voix. Chemin de feuilles, humidité délicieuse qui se déchire en lambeaux. Balancier, stupide balancier, perte d'équilibre. Nous sommes si fragiles, assis sur le fil, entre l'abolition de nos peurs et l'insanité. Que faire de nous lorsque nous nous effondrons du mauvais côté de la lumière ?
Nous avons entendu Cyril Dion et ses poèmes extraits du livre « Assis sur le fil ». Un grand merci encore à Monsieur Lostis, sans qui rien n'aurait été possible, et qui nous a fait rêver de cercles de poètes enchanteurs. Et merci bien sûr à Cyril Dion pour sa disponibilité et sa simplicité. On se retrouve le mois prochain pour de nouvelles rencontres sur Radio Grand Ciel ou sur le site www.radiograndciel.fr pour plus d'informations. À très bientôt! Thank you.